Si tu veux, je dirais pour commencer que quand nous avons réussi à mettre sur pied la Déclaration universelle des droits de l'homme, d'abord on a été très ambitieux, un peu peut-être exagérément ambitieux en disant elle est universelle cette déclaration. Comme vous savez, c'est le seul texte international qui porte l'adjectif d'universel. Et cet adjectif, nous le devons à un compatriote, René Cassin. C'est lui qui siégeait avec les autres, avec Madame Roosevelt et les autres, et les autres disaient, on va faire une déclaration internationale des droits de l'homme. Il a dit, non, universel. Et ils ont marché. Et il faut la vivre, cette déclaration, comme un programme. D'ailleurs, dans le texte même, on dit l'Assemblée générale, elle proclame la déclaration universelle comme un idéal commun pour tous les peuples et toutes les nations, afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant constamment cette déclaration à l'esprit, par des mesures d'ordre national et international, en assurent le respect, etc., etc. Je ne vais pas vous réciter ces textes, mais pour dire que nous avons su dès le début que c'était quelque chose qui ne serait pas applicable immédiatement. Parce que tous les droits qui y figurent, et notamment les droits économiques et sociaux, ne peuvent commencer à être effectifs que lorsque les États, les nombreux États, arrivent à devenir des démocraties, arrivent à se développer suffisamment pour pouvoir donner à tous le droit au logement, le droit à la santé, le droit à l'éducation. C'est un énorme programme. Alors, question, est-ce que ce programme a progressé? Réponse, oui. Il a formidablement progressé au cours des 60 dernières années, non pas peut-être dans les pays les plus riches et les plus avancés, comme sont la France et les pays d'Europe, mais partout dans le monde, il y a eu un progrès considérable vers davantage de développement des droits, aussi bien des droits civils que des droits sociaux, économiques et culturels. Donc, ne disons pas rien n'a bougé. Tout a bougé. Quand on se promène aujourd'hui en Afrique, ce n'est plus la même Afrique que celle d'il y a 30 ans. Quand on va en Inde ou même en Chine, ce n'est plus les mêmes pays. Progrès. Et en même temps, insuffisant progrès. Alors, l'insuffisance, on la constate de deux façons. D'une part, on constate que dans un très grand nombre de pays, il y a encore des régimes autoritaires, il y a encore des régimes qui ne respectent pas les droits, et que donc sur les 192 États membres des Nations Unies, il y en a bien une centaine où beaucoup, beaucoup reste à faire. Mais ce qui a énormément progressé, c'est d'abord les textes. Nous avons maintenant des conventions sur tous les problèmes importants, que ce soit le droit des enfants, le droit des femmes, il y a eu des conférences sur tout cela. Et ce qui est plus important que les conférences, ce sont les organisations non gouvernementales. Je rappelle toujours que le mot même d'organisation non gouvernementale figure dans la Charte des Nations Unies, adoptée le 24 juillet 1945 à San Francisco, et que depuis, s'est développée partout. Et ici, nous avons un exemple aujourd'hui, des organisations de défense des différents aspects des droits de l'homme. Quand je vois la RESF, quand je vois la CIMAD, quand je vois la FIDH, quand je vois Human Rights Watch, c'est pas seulement chez nous en France, c'est dans le monde entier. Ce qui veut dire que ce souci du respect des droits, il est encore insuffisamment accepté par les gouvernements, y compris par le gouvernement français, mais il est mis en route grâce à l'action constante et courageuse des organisations de défense des droits de l'homme. Et ça, ça vaut pour le mot général qu'est « droit de l'homme », mais qu'est-ce que ça recouvre, les droits de l'homme? C'est la façon de traiter avec justice et avec considération ceux qui n'ont pas encore acquis les responsabilités, les possibilités, le potentiel qu'ont acquis les plus riches et les plus évolués. Ce souci, donc, de ceux qui sont en difficulté, c'est ça l'objectif des droits de l'homme. C'est pour ça que ce terme très général, droits humains, on ne dit plus droits de l'homme maintenant, je vous mets en garde. Parce que si vous continuez à dire droits de l'homme, vous allez avoir la partie féminine de la salle qui va dire qu'est-ce que c'est que ça, l'homme, et nous alors. Eh bien, on sait que pour nous, homme, ça veut dire homme et femme, mais pour beaucoup, ils aiment mieux droits humains. Eh bien, pas pour droits humains. Mais ce travail-là, tout ce que je veux dire, c'est que ce travail-là, c'est extraordinairement merveilleux de voir le nombre de gens dans le monde maintenant qui investissent une partie de leur énergie et de leur temps pour essayer de lutter contre le déni de ces droits. Le déni de ces droits par qui? Eh bien d'abord, souvent, par les gouvernements eux-mêmes. C'est donc un appel à prendre, mettre les gouvernements devant leurs responsabilités en leur disant « Vous avez signé ces textes, eh bien, il faut maintenant les appliquer. » Et aussi de savoir que les gouvernements ne sont malheureusement pas les seuls à pouvoir exercer de l'influence, qu'il y a les forces économiques et financières qui pèsent lourdement sur la façon de faire fonctionner notre monde, et que ceux-là aussi, il faut les avoir à l'œil, et il faut essayer par les lois appropriées de les empêcher d'être seuls maîtres de la façon dont progressent nos sociétés. On a laissé trop faire le marché. On a trop dit, ben ça va se réguler, le marché va se réguler lui-même. On a cessé d'avoir une vraie régulation du marché. Nos voisins allemands ont été à cet égard un peu moins mauvais que d'autres pays européens, mais eux-mêmes pas suffisamment. Et il y a donc là aussi quelque chose à faire pour que la société fonctionne avec un respect réel des droits, un respect pour tous et un respect surtout pour ceux qui sont encore dans la difficulté, dans la misère, dans le manque de considération par le reste de leur société.